Parler comme un perroquet. Il y a des perroquets qui parlent très bien.
C'est pas spécifique à la langue française.
C'est quoi? Non, non. La manière française est spécifique à la langue française. Mais chaque langue a sa beauté. Par exemple, en espagnol, c'est encore plus fort qu'en français. Bien. La langue espagnole, c'est un chant. Le français, il faut chanter pour que ça chante. Alors, de quoi on parlait pour parler de tout ça?
C'est l'heure.
Bon, en tout cas, je vous ai rappelé cela, que le ratson, qui exprime le nefesh, s'exprime lui-même à travers trois véhicules et directement. La mahashava, le dibou et le mas. Ça va jusque-là? Ça vous permettra au moins une première lecture pshat aisée de ce premier paragraphe. Vous y êtes? Bon. Je vais vous donner un exercice. Donnez-moi un livre de Shmout. Ah ben j'en ai un. Un exercice à préparer pour la prochaine fois. C'est avant d'arriver à la deuxième partie du cours. Je prendrai dans Shemot le chapitre 20, qui est le chapitre des 10 commandements. Bon, ne cherchez pas maintenant. Notez et vous préparez pour la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain. Okay, vous lirez les 10 commandements comme on dit habituellement. Vous apprendrez qu'on ne peut pas traduire vraiment 10 commandements, parce qu'il y en a 9 seulement qui sont des commandements. De toute façon, le terme en hébreu, aseret adiverot, ça veut dire les 10 paroles. Alors vous prendrez comme postulat que la première des paroles est une définition et pas un commandement. Prenez ça comme postulat. Ça peut être discuté, mais vous verrez pourquoi je vous dis ça comme ça. Ensuite, il vous en reste 9 de commandements. Okay? Alors vous les mettrez en tableau. Vous pouvez travailler à plusieurs, chacun pour vous aider. Peut-être tout seul, c'est un peu difficile. Mettez-vous à 2 ou 3 pour préparer cet exercice. Donc, vous avez le premier commandement, c'est au niveau des définitions. Dieu parle à Israël pour lui dire « Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte ». Et puis, il vous reste 9 paroles que vous allez caractériser au niveau des versets. Et là, vous divisez ces 9 commandements en 3 groupes. Alors, je vous donne le plan. Et ensuite, je vous dirai ce que vous allez chercher par vous-même. Le premier groupe des 3 commandements, c'est les commandements entre l'homme et Dieu. Ben Adam le Makom. Le deuxième groupe, c'est Ben Adam le Hatzmo, entre l'homme et lui-même. Et le troisième groupe, c'est Ben Adam le Havero, entre l'homme et autre. Vous allez d'abord caractériser ce plan. Divisez-les. Entre l'homme et autrui. Ça, vous avez déjà appris. Ben Adam le Makom, Ben Adam le Hatzmo, Ben Adam le Havero. C'est clair? Ensuite, chaque groupe de 3 commandements se divise en 3 niveaux. Mahashava, Dibur, Maas. C'est clair? Ça veut dire que c'est le même principe, mais qui est formulé dans l'ordre de la pensée, dans l'ordre de la parole et dans l'ordre de l'acte, des actes. Mahashava, Dibur, Maas. Ça, c'est le plan que vous allez caractériser par vous-même. Okay? Vous suivez? Alors la question que je vous pose, c'est que cet ordre, Mahashava Dibur Maaseh, n'est pas le même dans chacun des groupes. Alors vous allez établir l'ordre de Mahashava Dibur Maaseh dans chacun des groupes. Dans un des groupes, c'est comme ça, Mahashava Dibur Maaseh. Dans un autre, ça peut être Maaseh Dibur Mahashava. Ça veut dire quoi? Et on l'étudiera mercredi prochain. Dans l'ordre des comportements entre l'homme et Dieu, qu'est-ce qui est important d'abord, important ensuite, les 3 étant importants? Est-ce que c'est d'abord la pensée, ensuite l'acte, la parole, ou l'inverse, ou autrement? Vous avez compris ma question? Voilà, vous faites cet exercice par vous-même. Hein? Par exemple, dans l'ordre des rapports Ben Adam Lamakom, entre l'homme et Dieu, nous allons voir l'ordre chronologique des commandements, un qui porte sur la pensée, un qui porte sur la parole, etc. Est-ce que c'est l'ordre d'ailleurs pour ce premier groupe? Mais dans les autres groupes, ce n'est pas forcément cet ordre-là. Vous allez essayer, par votre propre recherche, d'établir l'ordre. C'est clair? Et alors, on étudiera le corriger, les outils.
Comment on a oublié
la Havero. Bien. Alors maintenant, vous allez prendre votre livre de Shemot. Et je voudrais vous compléter ce qu'on a étudié mercredi après-midi. Quand je vous avais donné les références à préparer, je vous avais donné en particulier un de Rashi, on va les revoir tout de suite. Alors, avant cela, On a jusqu'à quelle heure? 11h30 midi et demi. Okay. Alors, avant cela, je crois, déjà tout à l'heure, j'ai eu deux questions, vous allez me rappeler. Si vous avez quand même des questions sur ce qu'on a appris mercredi après-midi, que vous commenciez à les poser. Je vous explique. Qui m'avait posé une question? Il y en avait deux. C'était toi et toi, d'accord. Quelle était ta question?
C'était qu'est-ce qui a donné.
Nous sommes au chapitre 2 de ce mot, ok? Oui.
Et ma question était de savoir qu'est-ce qui a donné le droit à Moshe de vouloir reconstituer une nouvelle identité.
Oui, c'est pas comme ça qu'il me l'a posé tout à l'heure. Hein. Bon, ça va bien. Alors, je vais vous rappeler pour tout le monde, et vous me direz si vous êtes bien branché là-dessus, quel moment de l'analyse ça va présenter. Rappelez que la Torah nous dit, c'est déjà le chapitre 2, verset 11, je crois. Oui. Chapitre 2, verset 11. Que Moïse va assister à une première scène. Il voit un homme égyptien frapper un homme hébreu. Vous vous rappelez de cela? C'est clair. Et vous rappelez surtout, je n'ai pas à le rappeler, tout ce que ça implique. Ça veut dire qu'il diagnostique une disqualification morale du côté égyptien par rapport au côté hébreu, alors qu'a priori, il est inséré dans les deux côtés de façon analogue. Vous vous rappelez de cela? Bon. Analogue est peut-être un mot trop vague, mais vous comprenez l'idée. Alors, dans ce verset 11, c'est la première scène où Moïse se décroche de l'avenir égyptien. Il a choisi pour les Hébreux. Vous vous rappelez ? La deuxième scène, c'est dans le verset 13 que nous l'avons. Vayosé Vayomachéli, un autre jour, le deuxième jour, il est sorti aussi vers le camp. Et puis, il voit deux hommes hébreux se révéler. Et alors, il renonce, désespère, comment dire ça ? En français, il est. C'est ça. Bon, c'est l'idée. Déçu, voilà. Il est déçu de cette société des Hébreux qu'il se préparait à rejoindre comme un néophyte enthousiaste. Baal Tshuva, il quitte les Égyptiens pour les Hébreux, okay. Et puis il rentre dans une communauté où ça se dispute. Là, il dit, ce que j'ai trouvé là, je trouve là. Alors, premièrement, déception de l'Égypte. Deuxièmement, déception d'Israël en Égypte. Ça va ? C'est très ramassé, c'est très dense comme récit. Mais c'est clair, ok? Et alors il va être disponible pour n'importe quelle aventure. Laquelle? Finalement, il va aller à Midian. Mais dans cette première étape, jusqu'à la révélation du buisson ardent où il dit de, tu t'es trompé, mon peuple, c'est pas Midian, c'est Israël qui est en Égypte, vous vous rappelez du texte? Okay? Alors il est prêt, innocemment, naïvement, je dirais, mais en toute bonne foi, à se rendre disponible comme Moïse, le prophète des valeurs des patriarches, pour un peuple qui serait capable d'être son peuple. Alors, il trouve l'hypothèse la plus privilégiée. L'hypothèse la plus privilégiée, c'est une identité qui s'est déjà détachée des idolâtries, qui est donc disponible pour une. Qui a tout son avenir devant elle. Vous vous rappelez ? Le peuple de Jéthro. Et alors, il va chez Jéthro. Ça veut dire, pour répondre à ta question, il y a là un diagnostic que je mets en forme. C'est que, premièrement, il a été déçu de l'Égypte, pas question pour lui de retourner en Égypte, c'est fini, déception totale. Et donc, il devait, normalement, deuxième hypothèse, rejoindre les Hébreux, mais il est déçu des Hébreux. Okay? Alors, par conséquent, troisième point, eh bien, il se cherche une société de remplacement. Vous vous rappelez de la formule que j'ai employée, pour éclairer un peu l'itinéraire d'errance, d'ailleurs, des intellectuels juifs contemporains qui ont vécu cette expérience, eh bien, il se cherche un Midian, tu seras mon Midian, je serai ton Moïse. Okay? Dans tous ces intellectuels juifs, il y a une espèce de tentation, de prétention d'être le Moïse d'un peuple quelconque, mais surtout pas Israël. Okay? Vous avez remarqué ça? Voilà à quelle étape. Ça y est, c'est clair. Alors, ce que nous allons voir, c'est que cette inclination de Moïse pour Midian, et qui s'incarne dans le fait qu'il va épouser Tzipora, okay? Qui est la fille de Jéthro, la Midianite, elle va se convertir, mais ça ne change rien. Okay? Il y a une sorte de faiblesse, de complaisance, disons, d'inclination de Moïse pour Midian qui va accompagner toute l'histoire de cette génération. Et nous verrons encore ce matin comment il faut couper cette espèce de cordon de complaisance avec Midian Mais l'identité midiane va s'ériger en rival d'Israël, parce que c'est un Israël possible s'il n'y avait pas d'Israël. Vous avez compris le problème. C'est la rivalité la plus dangereuse. Okay. Alors, toi, tu m'avais posé une question concernant Dan, okay, la Minat ad-Din. Oui, ben, c'est cela. Midian aussi, il y a la Minat ad-Din dedans. Okay. C'est une mise en question, une mise en jugement d'Israël. Pas n'importe qui peut s'ériger en juge d'Israël. Et là où c'est le plus dangereux, c'est quand il s'agirait de quelqu'un qui, s'il n'y avait pas d'Israël, serait peut-être lui d'Israël. Ça, c'est le raisonnement de Moïse. Oui. Tout ce que je vous explique là vient du Midrash de la Kabbalah. C'est pas du tout lisible. Vous ne trouverez pas ça dans les livres. Mais je crois qu'une fois que vous l'avez entendu, vous comprenez la cohérence du récit. Parce qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui arrive à Moïse d'aller devenir pendant 40 ans le berger du troupeau de Midian. Okay. Et avec cette indication de Rachid, des petits clins d'œil comme ça qui nous dit attention, ici il se passe quelque chose d'important. Moïse a eu la tentation de fonder un peuple avec Midian qui remplacerait Israël. Pourquoi ? Eh bien, on l'a dans le verset 13, parce qu'il est déçu d'Israël. Ce que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est comment Dieu intervient dans la vision du buisson ardent pour corriger le diagnostic de Moïse. Alors, je vous rappelle, nous étions arrivés au verset 22. Prenez le verset 22. Verset 22. Comment Moïse, au bout de ses 40 ans de séjour chez Jéthro, comment Moïse va devenir disponible à la révélation de Dieu? Et jusque-là, rappelez-vous, dans l'hypothèse que j'avais choisie, il a 80 ans déjà, et jusque-là, il n'a reçu aucune révélation. C'est par son propre diagnostic qu'il a jugé que le temps était venu de décrocher de l'Égypte. Mais il y a une parenthèse d'incident de parcours qui apparaît. Il n'est pas encore assez détaché de l'Égypte ou rattaché à Israël pour voir Israël comme il est vraiment. Il ne voit que les apparences. Il en est aussi déçu et il va se chercher à Midian. Là-bas, à quel moment Dieu se révèle à lui? Et Dieu attend 40 ans avant de se révéler à lui. C'est quand Moïse a fait le diagnostic que décidément il est hébreu et c'est hébreu qu'il est, pas autre chose. Vous vous rappelez? Quand il va nommer son premier fils. Alors on va prendre ce verset. Vous suivez l'analyse okay. Cette hésitation possible, cette ambivalence plus exactement, l'hébreu égyptien, comme aujourd'hui on dit juif français ou juif ce que vous voudrez, eh bien, elle n'existe plus à ce moment-là. Et puis cette tentative hébreu-midianite, elle n'existe plus non plus. Il prend acte que finalement il est étranger chez les autres. C'est un peu, si vous voulez, le parcours du juif qui est tenté par l'assimilation, tout en prétendant et voulant rester fidèle à ses origines, et avec cette illusion, la plupart du temps d'ailleurs de bonne foi, j'essaie de vous décrire ça un peu mercredi, vous rappelez, que vraiment on lui a accordé, on lui a accordé ce qu'il a adopté, la nationalité de l'autre. Okay. Mais à un certain moment, Moïse va faire ce diagnostic que décidément non, pour tous les autres il est étranger. Et encore une fois, c'est ce qui arrive à un certain moment de l'expérience où le juif assimilé découvre avec stupéfaction que l'autre le considère comme juif et pas comme autre. Vous avez compris le problème? Alors, ça lui renvoie à la figure, son identité. C'est clair? Voilà comment ça nous est exprimé dans l'histoire de Moïse au verset 22. Vatelet ben, Tzipora, lui enfant d'un fils. Vaïkraet Shemo Gershom, et il le nomma, qui Moïse le nomma ce fils Gershom, qui amar, car il a dit, Ger Haïti Beeret Mochria. Étranger, j'étais sur une terre étrangère. Vous y êtes? Alors le Midrash explique. Ger Haïti Ben Israël, Beeret Mochria Ben Midian. Ça veut dire, à force de se rendre compte à quel point il est étranger, même à Midian, et pourtant, vous vous rappelez, il est dans la situation privilégiée de Jacob chez Laban. Il est le gendre du beau-père, c'est clair, et le berger du patron. Il est le juif de l'exil, mais dans la situation la plus privilégiée. Son goy, c'est son beau-père. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça peut aller comme privilège. Et malgré tout, là, il se rend compte que les Midianites sont des Midianites, et lui, ça reste l'étranger. Vous rappelez, Jacob chez Laban, la même chose. Okay. Chez Laban, c'est encore plus privilégié. Jacob, il était aussi le neveu, et pas seulement le gendre. Et rappelez-vous que Rachid, ta question, avait dit, il s'assit près du puits, il a voulu faire comme Jacob. Okay, c'est ça. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, ça, il faudrait que je revienne en arrière, mais je vais revenir en arrière. Je voudrais d'abord finir ça. Regardez bien l'expression. Pourquoi il nomme son fils Gershom qui amar? Parce qu'il dit, ça veut dire la fin du diagnostic, il a formulé cela, en fin de compte, « Geraïti, j'étais étranger, Beret Nochria, en pays étranger. » Le Midrash note qu'il y a une répétition. « Ger », ça veut dire « Beret Nochria. Okay? Étranger, ça veut dire « en terre étrangère. » Non, non seulement lui est étranger par rapport aux Égyptiens, mais leur terre est étrangère par rapport à lui. « Beret Nochria. » Il fait ce diagnostic. Il y a quelques années, mais il faudra que je vous donne ce texte. Je vous ai souvent répété, quand un juif quitte l'exil, il ne doit pas le quitter en claquant la porte. Il doit dire merci à ce qu'il a reçu. Vous vous rappelez de cela? C'est clair. Et alors, le diagnostic, c'est que finalement, Moïse réalise qu'il est étranger dans un autre peuple, mais que non seulement ça, le paysage de l'autre peuple lui est étranger. C'est un diagnostic que vous suivrez pour votre propre clita. À partir du moment où vous vous considérez chez vous, dans l'autobus de Jérusalem, et pas dans le métro place de la Concorde, c'est là que ça a changé. Vous avez compris ce que je veux dire ? Alors ça ne veut pas dire que les paysages français ne sont pas des beaux paysages. C'est avec attendrissement qu'on se reliera à ces souvenirs culturels. Mais ce n'est pas les nôtres. Voilà le problème. Vous avez compris la question ? Bon, c'est ça qu'il faut arriver à réaliser, et ce n'est pas facile. Sachez que ce n'est pas facile, parce qu'en particulier les paysages français sont de très beaux paysages. Les Israéliens sont israéliens, c'est plus. Je me rappelle, quand on a fait le débarquement en France, l'armée d'Afrique, on a pris pour remonter de Saint-Tropez, d'ailleurs on a débarqué de Toulon à Strasbourg, la route qu'on appelle la route de Napoléon, la route de Grenoble, vous savez ce que c'est? C'était la première fois que moi, jeune Algérien, ayant appris la géographie de France dans des cartes postales, et je rentrais dans des paysages français. Et je me rappelle bien de cette impression, j'avais l'impression de marcher sur des cartes postales. C'était extraordinaire. Vous qui êtes né en France, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez perdu de ne pas être né ailleurs pour découvrir la France. Mais entre apprécier de quoi il s'agit et être reconnaissant de cela et se prendre pour l'autre, ça fait... Voilà, c'est ça notre problème. Vous voyez la différence ? C'est clair.
S'il vous plaît, est-ce qu'en nommant son fils Gershom...
Gershom, c'est un autre nom.
Gershom,
ah, tu sais déjà.
Moïse décide d'une façon définitive que son fils est étranger dans une terre étrangère.
Oui, et il s'identifie comme ça.
Et pour son fils, c'était la même.
Oui, c'est sûr, ça veut dire qu'il s'identifie comme ça. Et Gershom, c'est le fils de Moïse. Et Moïse, se connaissant, étranger, c'est des étrangers, hébraïse son fils. Réhébraïse son fils. C'est là que vraiment il a quitté l'Égypte. Attends, je vais vous attendre finir pour que vous ayez les deux volets. Et le Midrash dit qu'il s'est senti étranger et de l'Égypte et de Midian. À cause de la répétition. Geraïti pour l'Égypte, Beret Nochria pour Midian. Mais on apprend quelque chose d'important. C'est pas seulement la relation à l'autre peuple, c'est la relation au paysage de l'autre peuple. C'est clair? Bon. Qu'est-ce que tu veux dire?
Il semble qu'il y a un schéma qui est toujours semblable chez Moïse. C'est que sa prise de conscience interne passe toujours par la vision de l'autre à l'extérieur. Et que c'est ce qui s'est passé.
Donne-moi un autre exemple. C'est un peu formel, je ne comprends pas très bien. Donne-moi un exemple.
Ici, il commence par avoir un fils qu'il appelle Gershom pour dire ensuite Geraïti.
Non, il a un fils et il appelle Gershom parce qu'il veut lui transmettre l'expérience qu'il a eue.
Bien sûr, mais dans le texte, c'est
pas. Ah, dans le texte, c'est ça.
Et dans ce qui se passe.
Le Kiyamar Geraïti Beres Nochria, c'est avant qu'il ait un fils. C'est avant qu'il le nomme. Il a eu cette expérience. Okay. Et puisqu'il a eu cette expérience, quand il a eu un fils, il l'a nommé Gershom.
Oui, mais la prise de conscience, non.
C'est la même chose, c'est ce que je veux dire.
Et
c'est ce que je veux dire, c'est la même chose.
Okay. L'Égyptien, il commence par voir un Égyptien.
Oui, oui. Ça veut dire, oui, c'est sûr. Ça veut dire que, mais c'est là qu'il prend conscience de lui. Là, tu as raison. Il a un diagnostic de la réalité extérieure qui le renvoie à son identité intérieure. Mais c'est, je pense, dans ce verset qu'il a identification de son identité intérieure. Je vous ai dit ça mercredi après-midi, une minute, énormément de juifs, même sans en avoir conscience lucide, ont vécu cette situation. Juifs à la maison, français dans la cité, etc. Et quels sont les frères, c'est clair. Et sans avoir jamais tranché. Et finalement, il a fallu qu'il y ait des événements extérieurs qui imposent cette prise de conscience. C'est clair ? Mais comment commence cette prise de conscience ? Le texte ne nous dit pas qu'il se connaît comme hébreu. Il a reconnu ses frères comme hébreux. Mais première étape importante, il se connaît comme étranger par rapport à l'autre. Et pourquoi ? Parce qu'il a appris cela, finalement, que l'autre le considère comme un étranger. Je crois qu'une des protections de l'identité juive, c'est cet antisémitisme de xénophobie. Là, le fait que les goïms, finalement, quelle que soit d'ailleurs leur générosité avec laquelle ils vous donnent leur citoyenneté, c'est d'une générosité inouïe, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, eh bien, savent dans le fond de leur cœur, de leur âme, je ne sais pas comment dire, qu'un juif, c'est un juif, malgré tout. Et alors, quand les juifs prennent ça pour de l'antisémitisme, ils se trompent. C'est grâce à ça que beaucoup de juifs ont été préservés comme juifs. Alors, quand le juif s'entête, alors le goïm s'énerve, le goïm s'énerve, et ça devient antisémitisme. Mais tout simplement, il a dit la vérité. Et il a dit une vérité que le juif, dans le fond de son cœur, réclame. Tu comprends ? Si un goy dit à un juif, tu es goy comme moi, le juif va entrer en transe. Okay ? Alors le goy lui dit, non, toi tu es juif. Alors il dit, ah, tu es antisémite. Oui, le problème. C'est clair ?
Est-ce que le paysage influe sur la mentalité ?
Absolument. L'homme est l'homme de son paysage. C'est ce qu'on appelle un paysan. Okay ? L'homme est l'homme de son pays, étymologiquement paysan, qui a donné le mot de païen, ça veut dire l'homme d'un paysage. L'homme est distillé par son paysage. Le paysage est au niveau du ça, et l'homme est au niveau du quelqu'un, c'est le quelqu'un de ce paysage. Est-ce que vous voyez l'image d'un tchèque en burnous, d'un tchèque en burnous au pôle nord, c'est pas son paysage. Pour un tchèque, il faut des chameaux, il ne faut pas des ours polaires. Bon, vous avez compris l'image.
Est-ce que Rachi en Champagne aurait été Rachi en Espagne ?
Non, ça n'aurait pas été le même. Donc il y a un mystère de la relation entre Israël et la France. C'est vrai, il y a entre Israël et la France quelque chose de mystérieux. On en parlera un jour si ça vous intéresse. C'est-à-dire, un Rachi espagnol aurait été différent. Nous avons notre Rachi espagnol, c'est l'harmonie. Mais tu as absolument raison. Il y a une espèce de relation à travers l'histoire entre Israël et la France qui est à étudier, je vous en parlerai un jour. Mais on peut quand même pas oublier que nous avons reçu la liberté civique des Français d'abord. Eretz Israël, on l'a reçu des Britanniques. Il y a aussi une relation avec les Britanniques, en particulier avec les Allemands, avec chacun son problème. Les Espagnols aussi. Mais avec la France, il y a quelque chose de particulier. J'ai une fois formulé ça comme ça. C'est une sorte de relation mystérieuse entre le fils aîné de Dieu, Israël, et la fille aînée de l'Église, la France. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce qui est très frappant, c'est que dans l'angéologie chrétienne, catholique surtout, on assigne à la France le même archange qu'à Israël. Et plus que ça encore, les couleurs de la bannière sont les couleurs du drapeau d'Israël. Vous avez jamais vu la bannière de Jeanne d'Arc ? C'est le drapeau juif. Il y a quelque chose, donc. Et alors, on essaiera de... Bien sûr, il manque ça. Bien sûr, on essaiera de comprendre de quoi il s'agit, mais à travers l'histoire, il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose de particulier entre les Juifs et la France. Au point que la France est le pays, par excellence, à travers l'histoire, de l'assimilation. C'est-à-dire, c'est un pays assimilateur pour les Juifs de manière colossale. C'est un pays assimilateur pour n'importe qui. N'importe qui arrive en France finit par s'assimiler, okay, mais pour les Juifs en particulier. Et d'autre part, dans le sens positif, la reconnaissance de l'identité d'homme a été donnée d'abord par la France dans la civilisation romaine aux Juifs avant les autres pays. Et les Juifs ont une sorte de reconnaissance absolue de cela. Je ne sais plus qui disait, mais c'est important de se le rappeler, tout Juif a deux patries, la sienne et la France. Vous avez entendu ça une fois, okay. Et les Juifs ont vécu cela. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai une fois racontée, ma première découverte de la France. Et c'était mon cadeau de Bar Mitzvah, un voyage en France. J'avais jamais quitté l'Afrique du Nord. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Et on venait en bateau, et je débarque sur le quai à Marseille. Je vois une scène que je vais vous décrire. Et imaginez l'impression, à travers cet exemple, l'impression que les Juifs arrivant de leur ghetto avaient en arrivant en France. Vous comprendrez cette fascination pour l'identité française. Au point que énormément de Juifs, les Israélites, étaient persuadés que Dieu était français. Bon. Je vous connais cette expression. Heureux comme Dieu en France. Vous connaissez ça ? Non, bon, allons-y, j'avais un problème. Alors voilà la scène que j'ai vue. C'était dans les années, je ne vous dirai pas, parce qu'il y a très très longtemps, mais enfin j'étais très jeune, il y a longtemps. j'avais 13 ans. Alors je vois une chaise, et sur une chaise, il y avait une pile de journaux, et sur la pile de journaux, il y a une petite assiette avec des pièces d'argent. Je suis resté contemplatif pendant 10 minutes. Je me suis dit, chez eux, en Algérie, là-bas, il y a longtemps que j'aurais ni chaise, ni journaux. Non. C'est-à-dire, dans ce pays, le Messie est arrivé. Vous voyez le choc que ça peut avoir. Et alors, ce pays qui nous donnait son passeport, qui nous donnait la protection de sa police, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un juif des pays arabes, qu'est-ce que ça voulait dire avoir la nationalité française ? Est-ce que c'est clair ? Mais c'était vrai pour les juifs de Pologne, de Russie, de Roumanie, de partout. La France, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vive la France et tout. Bon. Et je ne sais pas ce qu'il en arrive maintenant à Marseille, depuis que les Algériens sont arrivés. Et je crois que ça ne se passe plus comme ça, peut-être. Mais en tout cas... voilà une scène. Et c'est à travers cette anecdote, c'est très profond. Ça veut dire qu'il y avait une espèce de sentiment dans le monde juif depuis la Révolution française que si quelque part il y a un goy vivable, c'est les Français. C'est clair ? Bon, on a eu tous les caribes des syllabes possibles et imaginables, toutes les désillusions possibles et imaginables. C'est aussi des barbares quand ils s'y mettent, mais voilà quel était l'expérience. Pourquoi je vous ai parlé de ça ?
Les paysages.
Oui. Bon, oui, c'est ça. Et là, il y a une équation personnelle de l'identité française. Oui, je vous ai parlé de la relation mystérieuse entre les Juifs et la France. Donc.
Mais c'était pas fondé. Je veux dire, le rachis n'est pas fondé que sur la France.
Il s'est fondé sur l'alliance qu'il y a eu entre Jacob et Laban lorsque Jacob a quitté le Liban. Et déjà là, ça met la frontière entre la France et Israël, vous savez bien que c'est le Liban, comme par hasard.
Non, mais c'est pour la question qu'a posée la pour que si en Espagne, n'aurait pas.
Non, mais c'est une question d'existence. Ça veut dire que Rachid s'est trouvé là. Alors, par conséquent, toute son identité de juif d'exil s'est exprimée en français. Si c'était trouvé en Catalogne, ça aurait été en espagnol. C'est ça que je veux dire. Je pense que vous avez bien compris cette identité mixte de chaque juif de l'exil.
Et vous nous avez dit que le juif est au-delà des conditionnements de la nature. Donc
oui.
Comment est-ce que le paysage...
Quand il est en Israël.
Oui, comment ?
Quand il est dans le paysage des autres, ça joue au second degré, mais ça joue. Finalement, un juif assimilé prend les caractères du goy du coin.
Un juif non assimilé.
Non, il garde les... il est reconnaissable. Vous prenez un juif d'un ghetto, que ce soit un ghetto marocain, que ce soit un ghetto polonais, à quelques nuances près, extérieures, vraiment contingentes, c'est le même type d'homme. Tandis que vous prenez un juif marocain assimilé et un juif polonais assimilé, vous avez un polonais et un marocain, et ça n'a rien à voir. Tu vois ? Par exemple, quand vous étiez en France, on vous appelait juif. Ici, on vous appelle français. Pourquoi ? Parce que ça se reconnaît. Dès qu'un juif francophone commence à parler l'hébreu, on lui répond en français. Vous avez remarqué ? Il paraît d'ailleurs, si, on se marie, on a des enfants, ça va mieux pour eux.
C'est
un prêt. Et il paraît d'ailleurs, beaucoup d'Israéliens me l'ont dit, qu'ils adorent l'hébreu avec l'accent français. Entrez bien dans la société israélienne, ils ont une coquetterie d'ajouter des mots français dans l'hébreu israélien. À propos. Vous allez acheter des chocolats des luxe.
Ça fait dégueulasse, ça.
Ça fait israélien, comme. Donc, il y en a. Non, l'Ashkenaz dirait peut-être des luxe. Alors, où est-ce qu'on est arrivé? À l'introduction à cela. Ken, vous y êtes? Qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Eh bien, il ne m'en reste pas. Alors, vous allez prendre le verset que je vous avais indiqué avant avec Rachid, on va le voir rapidement. Voilà, vous prenez le verset 7 du chapitre 3. Verset 7 du chapitre 3, vous y êtes? Alors je lis, c'est dans la vision du buisson ardent. Verset 7 du chapitre 3. Zaïm, Gimel Zaïm. Vayomer Hashem, et Dieu lui dit, Vao Raïti et Roni Ami Asher Ben Mitzraïm. Et ici une première indication importante. J'ai vraiment vu Rao Raïti et Roni Ami, la misère de mon peuple Asher Ben Mitzraïm, qui est en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un autre peuple qui n'est pas en Égypte? Okay. Mais vous voyez l'indication. Mon peuple, c'est pas comme tu as pu croire, Midian, peut-être. Non. Mon peuple, c'est mon peuple qui est en Égypte. C'est clair? Et le Midrash va approfondir cela. Et c'est parce qu'il était en Égypte que tu t'es trompé sur lui. Tu l'as vu comme il était en Égypte. Je continue. Veit Sarakatam Shamarti, et leur cri d'angoisse, Tsaraka, Shamarti, j'ai entendu. Nipene Nogesav devant ses persécuteurs, qui a darti et machova, car j'ai connu leur douleur. Alors prenez Rashi sur qui a darti et machova. Rashi commence par expliquer cela, parce que vous voyez, ça fait difficile, que ça veut dire que Dieu a connu les douleurs d'Israël. Et ici, c'est un autre verset, Vayeda Elohim, et Dieu connu. La question, nous l'étudierons une autre fois. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a une connaissance nouvelle après une expérience contingente? Alors, Rachid pose la question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire cela? Qui samtilev? Ça veut dire samtilev. J'ai prêté attention, littéralement, j'ai mis mon cœur. Samtilev. Les hibbonen, pour comprendre, vela da'at, et pour connaître, et machobar, ses douleurs, velo et elamti aynai, et je n'ai pas caché mes yeux, Velo a tomé odoznaï, et je n'ai pas fermé mes oreilles, mitzahakatam, de leur cri. Alors, ce Rashi est cité pour expliquer comment Dieu explique à Moïse son erreur de diagnostic. C'est-à-dire que il a jugé d'après les apparences, et que l'état dans lequel ils sont vient de ce qu'ils sont persécutés. C'est clair? Nous étudierons un verset à propos de la Gada de Pessah, où, en récapitulant le récit de tous les événements de la sortie d'Égypte, à un certain moment, le texte de la Gada de Pessah cite le verset « Vayari otanu amitzrim ». Le pshat, ça veut dire « Et les Égyptiens nous ont fait du mal ». Le Midrash nous le fait lire, avec une forme un peu différente, « Et les Égyptiens nous ont rendus mauvais ». Voilà quelle est l'idée. Le fait qu'ils soient dans l'exil, les amis, l'a mis dans les défauts dans lesquels ils se trouvent. Et lorsque nous reprenons les textes des prophètes, lorsqu'ils décrivent la sortie de l'exil à la fin du temps, à la fin des temps, alors on veut décrire cela comme ça. Vous le verrez en détail quand vous étudierez les prophètes. Les juifs de l'exil quittent l'exil avec tous les défauts possibles et imaginables. Et ils arrivent en Israël avec leurs défauts, avec les défauts qu'ils ont contractés dans l'exil. La situation d'exilé, c'est quelque chose de difficile à se désintoxiquer. Okay. Et alors, il faut tout un temps de guérison, de désintoxication de ces défauts. Vous comprenez le problème? Alors, ça voudrait dire d'une certaine manière que lorsque Moïse a jugé les Hébreux et en a été déçu, il les a jugés d'un œil abstrait. Il n'a pas concrètement compris dans quelle situation il se trouvait. C'est ce que Dieu lui dit là, en lui disant « Retourne en Égypte, mon peuple est en Égypte. » Voilà ce que je voulais mettre en évidence. On est arrivé à l'heure. Et puis rappelez-moi en tout cas que dimanche prochain, je vous cite une autre référence pour terminer cela, qui se trouve dans un autre livre. Bon, alors vous allez avoir un Shabbat plein, j'ai l'impression. Profitant. Assieds-toi, c'est la nuit du matin. C'est toi, Moïse. Quand tu es debout, je bégaye. Alors, profitez-en au maximum et ne vous fatiguez pas trop. Je vais vous dire, en fait, c'est dimanche déjà qu'il faut qu'on fasse la chalouka entre ceux qui vont en Netivot et ceux qui vont au Kibbutz. Or, en Netivot, il n'y a pas autant de place que de candidats que vous êtes pour Netivot. Alors, réfléchissez bien et j'aimerais bien que ça se distribue autrement, que plus aille au Kibbutz et moins à Netivot. Sinon, on va être obligé de faire une répartition arbitraire et c'est dommage. Choisissez par vous-même. D'ailleurs, vous allez, pour ceux que Netivot intéressera, Abit Bol sera là, c'est avec lui que vous allez travailler là-bas, pour ce Shabbat. Il vous fera donc une sira là-dessus. Zéou, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est vrai aussi, d'ailleurs. Est-ce que Joseph Attia du Kibbutz n'est pas revenu vous parler ? Non, je vais. Bon, je vais en parler à Fino. Rappelez-moi ça dimanche matin. Okay. D'autre part, attendez, j'ai pas fini. Vous vous rappelez qu'un jour, je vous ai cité un verset en vous disant que vous allez l'apprendre en chant. Mais Shavu Banim Nigula, ok. Bon, j'ai demandé à Rachel, mais elle ne le connaît pas. Alors vous demanderez à David de vous l'apprendre. Ou à Daniel, d'ailleurs. Bessonnet.